Bien, alors Yves Michaud, quelles sont les conséquences de la tyrannie de l'audimat sur la démocratie?
Alors, je n'avais pas prévu absolument de parler, donc parce que j'ai quand même la décence de ne pas me programmer. Il se trouve que l'impossibilité dans laquelle Laurent Geoffrin était de venir et que nous avons appris qu'il y a deux jours nous a m'a mis dans la nécessité de le remplacer. Bon, quelle légitimité d'abord aurais-je à le remplacer? Attendez, je vais essayer de me programmer de manière à ne pas vous ennuyer trop longtemps. Voilà, quelle légitimité aurais-je à le faire? Mais je dirais que d'une certaine manière, un peu la même que celle de Luc Ferry, puisque nous sommes tous les deux des philosophes, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui des intellectuels. Il se trouve que l'un est un politique ou a été un politique et moi non, mais que nous sommes quand même tous les deux dans les médias, ce qui témoigne de l'importance que nous lui attachons et éventuellement, je dirais peut-être, de la confiance que nous leur faisons. Bien évidemment, ça renvoie à l'engagement assez traditionnel du philosophe dans l'espace public. Simplement, l'espace public aujourd'hui, ce n'est plus l'agora, ce n'est pas la place du village, ce n'est même plus le café intellectuel du XVIIIe siècle. C'est un peu le café du commerce ou le café de la poste. Mais disons que le café du commerce et le café de la poste ont tendance à être sur les ondes, à la télé, sur les blogs, sur les forums et un peu partout. Je ne vais pas traiter la question, le thème que Laurent Geoffrin avait annoncé, c'est-à-dire la mutation des médias est-elle bonne pour la démocratie, mais vous verrez que justement, puisqu'on a juste substitué les noms là, mais vous verrez que justement je vais quand même aborder cette question indirectement en parlant plus généralement des rapports entre les médias et l'opinion et est-ce qu'ils les reflètent ou non. Alors d'abord je commencerai par dire les médias, quels médias? Et à la différence de Luc Ferry, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les grands médias, mais je vais d'abord noter le fantastique élargissement de l'éventail des médias. Il y a bien sûr les médias, le journal et notamment les journaux de référence, que ce soit Le Monde, pour lequel en ce moment se déroule une bataille, ou Le Figaro, ou Libération, les journaux de référence. Et puis, il y a la presse à grand tirage, il y a la presse de province, bien sûr, et puis, et partout dans le monde, hein, la presse de province, la petite presse. Puis aujourd'hui, un phénomène très important qui est celui des gratuits, qui, à mon avis, ont amené à la lecture de la presse des catégories de personnes tout à fait nouvelles. Dans les médias, bien sûr, il y a aussi la radio, les radios, avec de plus en plus d'interactivité dans les radios. Les auditeurs ont la parole, très souvent d'ailleurs, il y a même plus que les auditeurs qui ont la parole à la radio. Il y a la télévision, mais plutôt que parler de la télévision et des grandes télévisions, je parlerai des télévisions, avec les chaînes généralistes qui, à mon avis, sont sur le déclin, les chaînes d'information en continu, les micro-télés, les télé-web, et puis bien sûr, Internet, toute la galaxie Internet, que nous ne faisons qu'entrevoir, parce que, d'une certaine manière, les gens d'une certaine génération ne sont pas encore alphabétisés Internet, mais qu'est-ce que ça va être lorsque, comme nos enfants ou petits-enfants, tous les acteurs sociaux seront alphabétisés Internet et numérique. Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sites d'information, les portails, mais aussi les blogs, les forums, les chats, tout ce monde des commentaires, en ajoutant aussi une chose importante, c'est les télés sur Internet ou les sélections de vidéos sur Internet avec une immense globalisation absolue et en même temps figurique. Plus je rajouterais les réseaux, Facebook, Twitter, le suivi en direct et le commentaire en direct, la formation de l'opinion en direct. Il se trouve que j'ai un blog sur Libération, mon blog Traverse, et c'est assez fascinant de voir comment, en temps réel, on peut percevoir la formation de l'opinion, la formation de l'intérêt ou la formation de l'inintérêt. Par exemple, récemment, j'ai fait un post sur les retraites et brusquement, j'ai eu un nombre de visites considérable, donc de 12 000 dans la journée. Enfin, pour le genre de blog que je fais, c'est important. Et en revanche, j'ai fait un blog récemment sur la bataille pour le monde, inintérêt complet, avec les mêmes conditions de visibilité de mon poste. Hein, je veux dire, ce qui est très bien annoncé sur le site de Libération, 1200 visites, la question de la reprise du monde n'intéresse personne dans le monde Internet et médias. C'est très intéressant parce que ça en dit long aussi sur le statut des médias aujourd'hui. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Un déluge d'informations, de communication et de réactions, avec cette expression que vous connaissez bien, le buzz, bourdonnement, hein, bourdonnement d'informations. C'est une situation qui est fondamentalement changée par rapport à la conception, bien sûr, de l'espace public et élitiste du XVIIIe siècle, celle dont tous les philosophes ont parlé à propos de la formation des Lumières et du développement des Lumières, mais c'est aussi très différent de la conception de l'espace public publicitaire, de l'espace public tel qu'on parlait, par exemple, Habermas dans sa thèse de 1962. Par exemple, je suis allé chercher, rassurez-vous, je ne ferai pas que des lectures ennuyeuses, mais je me suis souvenu qu'en 1962, Habermas, parlant des nouveaux médias, il nous disait la chose suivante, c'est page 178, « Les nouveaux médias transforment la structure de la communication en tant que telle. Leur impact est dans cette mesure-là plus pénétrant, au sens littéral du terme, que ne fut jamais celui de la presse. » La phrase importante est la suivante. Le comportement du public se transforme aussi sous la contrainte du « don't talk back », car les émissions telles qu'elles sont diffusées par les nouveaux médias réduisent singulièrement la possibilité qu'ont leurs destinataires de réagir, ce qui est moins le cas des informations imprimées. Les nouveaux médias captivent le public des spectateurs et des auditeurs, mais en leur retirant par la même occasion toute distance émancipatoire, c'est-à-dire la possibilité de prendre parole et de contredire. Si vous avez entendu ce que disait M. Muller tout à l'heure sur les réseaux, l'ouverture de réseaux et de forums par un syndicat, vous aurez vu que le diagnostic de Habermas en 1962 est aujourd'hui complètement dépassé et complètement désuet. Donc on est face à une nouvelle conjoncture qui est essentiellement d'abord une conjoncture, là où je me retrouverai avec Luc Ferry, conjoncture technologique et économique, mais d'abord technologique, très différente de celles qui ont été prises en compte par les théoriciens de l'espace public et les théoriciens des médias. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans ce buzz, dans cette fantastique prolifération d'informations, beaucoup de bruit, beaucoup de déperditions, beaucoup d'expressions. Je veux dire, suffit d'aller voir les commentaires sur les forums. Beaucoup de pouvoir, mais beaucoup de pouvoir très momentané. On est vraiment dans un village global avec l'importance considérable des différences entre les médias. Hein. Encore une fois, si on parle des médias aujourd'hui, il faut parler de la presse écrite, mais c'est probablement un médium qui est en déliquescence, en quelque sorte, ou en décadence. Et à côté de ça, vous avez d'immenses possibilités de communication. Donc, médias, un éventail exceptionnellement large. Deuxième question, l'opinion. Eh bien, je dirais, pour l'opinion, là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Dans la question que j'avais posée à Luc Ferry et à Laurent Geoffrin, les médias reflètent-ils l'opinion publique ? Je maintenais le concept d'opinion publique, mais qui est un concept des années 1950, peut-être même un peu antérieur, 1930, dans la forme de la psychosociologie. Je rappelle que, par exemple, en France, un spécialiste de psychologie sociale, Jean Stoetzel, fut fondateur de l'Institut français d'opinion publique en 1938, à son retour d'un voyage d'études aux États-Unis où il avait rencontré Gallup. Mais le concept d'opinion publique est une chose, le concept d'opinion en est une autre, et aujourd'hui, je pense que nous avons autant affaire à une opinion qu'à une opinion publique. Et derrière cette idée d'opinion tout court, il y a l'idée d'une opinion au sens presque platonicien, la doxa, c'est-à-dire quelque chose qui est des avis qui sont flottants, qui n'ont pas à voir forcément avec la connaissance, qui sont illusionnés, l'opinion commune avec ses inflations, ses dérapages, ses rumeurs et son instabilité aussi, sa labilité et sa volatilité. L'opinion du XVIIIe siècle, l'opinion publique, c'était l'opinion éclairée et critique qui naît de la libre discussion des esprits libres dans l'espace public. Et ça a été repris dans la théorie habermasienne de l'interaction communicationnelle, puisque son livre sur l'espace public, c'est un livre qui fait en quelque sorte l'histoire du concept d'espace public depuis l'opinion publique du XVIIIe siècle jusqu'aux formes, je dirais, non critiques ou manipulées de l'opinion dans les sociétés contemporaines. Le concept d'opinion publique, c'est une question que j'aurais aimé poser hier à Stéphane Rosès et à Brice Nathurier. Le concept d'opinion publique a fait l'objet d'une critique virulente en 1972 par Pierre Bourdieu, dans un article qui fut publié dans les temps modernes sur l'opinion publique n'existe pas. Je ne vais pas revenir sur cet article, mais d'entrée de jeu, Bourdieu dénonçait trois postulats derrière la notion d'opinion publique, et vous allez voir que ces postulats sont extrêmement intéressants. Le premier postulat, disait-il, et qu'il critiquait, c'est que tout le monde peut avoir une opinion, que la production d'une opinion est à la portée de tous. Alors peut-être que c'est l'avis d'un homme de l'élite, peut-être que c'est l'avis d'un sociologue compétent, là-dessus, paix soit à l'âme de Pierre Bourdieu, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se prive d'avoir des opinions. Tout le monde peut avoir des opinions, et Dieu sait si ça peut être toutes sortes d'opinions, et pas forcément une opinion éclairée. Deuxième postulat que critiquait, que dénonçait Pierre Bourdieu, à propos justement des sondages d'opinion, c'est que toutes les opinions se valent. Et effectivement, quand on interroge les gens, dit-il, on produit un artefact, on cumule des avis individuels, et puis on produit un artefact qui est une opinion moyenne ou une opinion commune. Dénoncez cette idée-là. Toutes les opinions se valent, effectivement, toutes les opinions ne se valent pas, mais dans l'espace de la communication contemporaine, la plupart du temps, toutes les opinions se valent, j'y reviendrai. Et puis, troisième postulat qu'il dénonçait, en disant on pose la même question à des individus très différents et ça suppose qu'il y a un consensus sur les questions à poser. Bien évidemment, c'est un postulat qui est illusoire. Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, on vous pose toutes les questions possibles et imaginables et il est difficile que vous ne tombiez pas sur une question qui vous intéresse. Alors, je dirais, la conclusion de Bourdieu, c'est que l'opinion publique n'existe pas. Il nous disait il y a des opinions mobilisées autour d'intérêts explicitement formulés, par exemple les opinions politiques ou les opinions des travailleurs au sein des syndicats. Et puis, il y a des dispositions qui ne sont pas identifiables à des opinions formulables avec cohérence. Mais bien évidemment, ce qui se trouve aujourd'hui, c'est que ces dispositions aussi trouvent à s'exprimer continuellement ne se privent pas de le faire. Donc, je dirais que nous sommes dans une situation qui a profondément changé compte tenu de l'élargissement des possibilités d'expression, de l'élargissement des possibilités d'interaction. Et je dirais que le phénomène principal, c'est celui dont je vais parler un peu maintenant, c'est celui de la réflexivité sociale. Alors, nous tournons, beaucoup de gens ont tourné, les sociétés sont évidemment complexes. Les sociétés sont évidemment des systèmes. Le tout, c'est de savoir jusqu'à quel point nous ne sommes pas entrés dans des sociétés qui sont des sociétés d'une complexité considérable pour lesquelles il y a des caractères systémiques nouveaux par rapport, je dirais, à des sociétés relativement plus simples dans leur fonctionnement. Bon, ce sont des thèmes qui ont été développés par les penseurs systémiques comme Niklas Luhmann, un philosophe allemand, Anthony Giddens, Edgar Morin, quand il parle de la complexité. Et puis, c'est une sorte de réflexion qui vient de l'époque aussi de la cybernétique qui apparaît dans les années 1950. L'idée qu'il y a derrière ce caractère systémique, c'est l'idée que les sociétés complexes se pilotent en prenant en compte en continu des informations sur leur fonctionnement et en contrôlant les actions en fonction de la remontée de ces informations. Alors bien évidemment, c'est une idée, je dirais, non pas aussi vieille que les sociétés humaines, c'est pas vrai, mais c'est une idée relativement ancienne. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, on sait que les sociétés mettent systématiquement, les sociétés européennes en tout cas, mettent systématiquement en place des tableaux de bord de leurs activités, depuis les premiers tableaux économiques jusqu'aux tableaux statistiques, puis à la montée de l'enregistrement bureaucratique à peu près de tout et de n'importe quoi, et aussi bien les analyses qu'a fait Michel Foucault de la montée de la biopolitique, c'est-à-dire de la gestion des populations dans leur santé, dans leur démographie, dans leur hygiène, etc., que des conceptions de théoriciens comme libéraux comme John Stuart Mill ont bien noté cette montée des appareils informationnels au cœur des sociétés. Dans l'idée que John Stuart Mill, au milieu du 19e siècle, avait de l'État, c'était qu'il devait être essentiellement un système de redistribution de l'information à destination des particuliers, pour que les particuliers puissent agir en connaissance de cause et, je dirais, avec l'information suffisante. D'où d'ailleurs le fait que dans nos sociétés, il y a des observatoires pour à peu près tout et n'importe quoi. Hein, observatoire des égalités, des inégalités, sondages, agences, instituts démographiques. Notre société est un appareil statistique, bien sûr, de l'économie. Nos sociétés recueillent des données sur leur fonctionnement en continu et utilisent ces données pour leur, sur leur fonctionnement pour piloter leurs actions. Et donc, ce qu'on voit se mettre en place, avec de plus en plus d'efficacité, c'est ce que j'appelle une réflexivité sociale systématique. Et cette réflexivité sociale, elle n'est pas seulement celle des données savantes, mais c'est aussi celle des opinions. La réflexivité sociale, c'est aussi ce que tout un chacun perçoit du fonctionnement social. Et hier, à travers la session sur les sondages d'opinion, on touchait du doigt le fait que les sondages d'opinion nous permettent, avec bien sûr les réserves qui ont été apportées, les sondages d'opinion nous permettent d'avoir une idée de la représentation que les acteurs se font de leurs intérêts, de ce qui est possible, de ce qui est souhaitable, de la représentation, de la réflexion des acteurs sociaux. Alors cette réflexivité sociale, et c'est là qu'on rejoint, si vous voulez, la critique que faisait Bourdieu, c'est que disant que tout le monde peut avoir une opinion et toutes les opinions se valent, cette réflexivité sociale se traduit aujourd'hui, je dirais, par le fait qu'effectivement, tout le monde émet des opinions tout le temps. Il y a des politiques qui parlent de l'état de la société, il y a les experts, et Dieu sait s'ils sont convoqués tout le temps pour parler de tout et de n'importe quoi, il y a les journalistes, il y a les éditorialistes, il y a les intellectuels, il y a les humoristes. C'est très curieux de voir qu'aujourd'hui une partie de l'information journalistique sensible passe par les humoristes. Il y a les commentateurs de toutes sortes, et puis il y a l'homme du commun, il y a tout un chacun. Si vous prenez un panel d'émissions de télévision, vous avez en général un expert, un politique, une victime, un juge, peut-être éventuellement un assassin ou un ancien assassin. Vous avez l'ensemble des participants à la scène sociale qui vont émettre leurs réflexions. Regardez Jean-Luc Delarue, par exemple, ou regardez n'importe quelle émission de télévision, n'importe quel panel où vous aurez une très bonne expression de la réflexivité sociale. Et donc, ce que j'appelle un immense buzz réflexif. Et j'ajouterais que dans la prise en compte de ce buzz réflexif, n'oublions pas, parce que c'est un phénomène récent lié à la technologie, n'oublions pas les images. Dans ce buzz réflexif, il y a les images. Pensez à l'importance prise par les images, les vidéos, les captures d'images dans cette réflexivité. Pensez aux magazines, pensez aux petits extraits de vidéos prises en douce que vous trouvez sur Dailymotion ou sur YouTube. Pensez à ce qui vient de se passer avec le procès de Monsieur Hortefeux, je veux dire, ce qui est capturé. Les images, aujourd'hui, font partie de cette réflexivité sociale, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, qu'elles soient autorisées ou qu'elles soient volées, qu'elles soient précises ou qu'elles soient imprécises. Le monde, en fait, tend à passer à travers les commentaires, c'est le thème du storytelling, et le monde tend à passer à travers les vidéos. Ce serait, disons, plutôt un vidéo-telling qu'on pourrait caractériser ainsi. Avec, et là, je dirais, un rôle fondamental des technologies. Ce qui rend ces changements tout à fait possibles, ce sont les technologies. Technologies, par exemple, du vol d'images, de la capture d'images subreptice, immédiate, avec un téléphone portable ou avec une mini-caméra. Ce sont des choses qui n'étaient pas possibles avant. Maintenant, ça apporte à ce que j'appelle la réflexivité sociale, ça lui apporte une nouvelle dimension. Alors, cette réflexivité, ne pensez surtout pas que c'est une réflexivité réfléchie. C'est pas de la réflexion, ou alors c'est de la réflexion, je dirais, au sens optique. C'est de l'image immédiate qui reflète les opinions, c'est de l'image immédiate qui reflète les comportements, c'est de l'image immédiate sur les données de fonctionnement social et les opinions qu'elles inspirent. Les médias, en ce sens, je dirais que les médias aujourd'hui reflètent parfaitement l'état de la société, reflètent l'opinion, et le reflète dans le sens du fonctionnement social, c'est-à-dire avec le caractère flou, mobile, labile, instable et surtout terriblement momentané et périssable, avec bien évidemment un cercle de la réflexion et de l'irréflexion. Les médias reflètent la réalité et en même temps ils la formatent, et en même temps ils sont formatés par toutes les données qu'ils enregistrent. Ce qui fait que, et hier c'était sensible dans la session sur les sondages d'opinion, ce qui fait que on ne sait pas dans quel sens joue véritablement l'influence. Est-ce que c'est les médias qui reflètent purement et simplement la réalité, ou est-ce qu'ils la déforment? Je pense que c'est fondamentalement les deux, selon les cas, et avec, je dirais, une instabilité qui est pratiquement de mise dans l'affaire. Ça donne, du coup, ça suscite des guerres pour la maîtrise ou pour, disons, la capture de cette réflexivité. Guerre des médias, concurrence, bien sûr, concurrence commerciale des médias, mais aussi, même si c'est une illusion, effort des politiques pour contrôler les médias, effort des politiques pour contrôler les images et leurs images, mais effort aussi bien des acteurs de l'humanitaire pour faire la même chose. Je dirais Sarkozy, sa vie privée, ses rumeurs, Hortefeux, les Auvergnats et Augustin Legrand et les enfants de Don Quichotte, c'est à peu près la même situation, je dirais, de jeu sur la réflexivité, tentative de contrôle de la réflexivité sociale et difficulté aussi d'arriver à contrôler complètement cette réflexivité sociale. D'où le thème omniprésent aujourd'hui dans notre vie du spin, donner des effets qui permettront à la communication de passer, le thème l'importance des conseils en communication. Dès qu'il arrive quelque chose à un homme politique ou à une grande société, aussitôt ils vont aller chercher des conseils en communication pour essayer de contrôler, redresser, modifier plus ou moins l'image. Encore une fois, je ne me prononce pas sur le sens de la causalité. Je dis, nous avons une immense sphère de la réflexivité sociale aujourd'hui, et c'est au sein de cette sphère que la démocratie a à fonctionner, tant bien que mal. Alors, sur les effets de cette réflexivité, là, je recouperai certaines choses qu'a dit Luc Ferry. Je dirais qu'il y a des changements, ça entraîne des changements de profondeur de l'espace public. J'énumère, parce que je ne veux pas m'attarder et rester trop longtemps là-dessus. Un phénomène fondamental est le court-termisme. Une donnée fondamentale de notre vie actuelle, c'est le court-termisme. En gros, nous avons une mémoire vive de 2 ans, 3 ans au maximum. Après tout, c'était quand la canicule, c'était quand le tsunami, c'était quand les attentats du 11 septembre. Je veux dire, on ne sait plus trop les fixer. On sait que c'était le 11 septembre. C'était 2000, 2001, la canicule, c'était quand? Mémoire à 2 ans, 3 ans. Urgence, dictature de l'urgence, et dictature aussi du temps réel, bien évidemment. L'anticipation de ce qui va arriver, le commentaire, l'anticipation de ce qui va arriver. L'autre jour, j'étais tout à fait sidéré d'entendre commenter aux journaux de 7h30 et 8h du matin les mesures sur les retraites qui allaient être annoncées à 9h. Et toutes les chaînes de radio avaient déjà leur panel d'experts pour commenter quelque chose dont on ne connaissait pas encore le contenu. La dictature de l'actualité, le manque d'attention aux détails. Je dirais le manque d'attention aux détails, quand je dis changement de profondeur de l'espace public, là c'est une conséquence fondamentale. J'en prends un exemple, c'est un exemple qui m'a beaucoup choqué et dont les conséquences à moyen terme ont été assez importantes. Souvenez-vous qu'en 2007, il y a eu tout un débat en France, 2007 c'était bien longtemps, on a oublié, un débat sur l'accueil des immigrés et le regroupement familial. Et l'ensemble du débat débat a été polarisé en France sur les fameux tests ADN, sur le regroupement familial. Tout a été concentré là-dessus. Il y avait un point qui me... Les tests ADN, c'était sûrement une très bonne idée, simplement ça s'est révélé inapplicable compte tenu de l'équipement, notamment des consulats français. Mais il y avait deux points qui étaient extrêmement intéressants dans cette loi, qui n'ont fait l'objet d'aucun débat dans la réflexivité sociale. C'était d'une part les conditions qui allaient être mises en place pour, je dirais, mesurer les capacités d'apprentissage et d'intégration des candidats à la réunion familiale. Or, il est très important, par exemple, si on veut mesurer la capacité de quelqu'un à apprendre une langue, de lui faire passer non pas des tests de français tout simple, mais par exemple des tests de français langue étrangère. L'ensemble de ces problématiques, qui sont des problématiques fondamentales, si on veut établir des grilles de sélection, l'ensemble de cette problématique était passée complètement à l'as. Donc j'imaginais qu'on pouvait très bien aller recopier des passages de l'histoire de France et des choses comme ça dans des manuels traditionnels. On n'en parlait pas. Mais plus grave, la partie concernant les travailleurs sans papier établis en France n'a suscité aucune discussion. Or, les dispositions de cette loi étaient très floues. Elles laissaient pratiquement tous les pouvoirs aux préfectures, selon les situations locales. Et effectivement, nous en voyons les conséquences depuis les trois dernières années, c'est-à-dire qu'à répétition, nous voyons arriver des revendications tout à fait justifiées, à mon sens, de travailleurs sans papier qui payent leurs taxes et leurs impôts et qui ne sont pas régularisables. Donc, quand je dis perte complètement du sens des détails, tout le monde s'est excité, à droite comme à gauche, sur les tests ADN. Personne n'a regardé le point important qui était notamment celui de la régularisation des travailleurs sans papier. Simplisme des opinions, n'en parlons pas. Dictature de l'image, hein, simplisme des opinions. Regardez ce qu'il en est sur les OGM, le réchauffement climatique, les nanotechnologies, la grippe H1N1, le principe de précaution, l'écologie. Simplisme des opinions. Donc, ça donne cette changement de profondeur de l'espace public donne, à mon avis, une prime à l'irrationalité, à l'émotion, au sensationnel et, je dirais, au fugitif. Et c'est effectivement la négation même de l'esprit public des Lumières. On n'est plus du tout dans un espace réflexif ou dans un espace critique, mais dans un espace d'immédiateté. La seconde chose que je note, c'est pas seulement un changement de profondeur de l'espace public, mais c'est un changement de nature de ce qui est discuté dans l'espace public. Et là, je m'aide d'une distinction assez intéressante que fait Habermas et que je vais prolonger. Habermas nous dit que dans l'espace public, il y a des opinions formelles reconnues par les institutions et que sont celles qui, traditionnellement, dans l'espace public, doivent faire l'objet de la discussion critique, les opinions formelles reconnues par les institutions. Les institutions étant les institutions politiques, mais aussi les institutions syndicales, mais étant aussi les partis, étant les institutions qui encadrent la vie sociale. Ça, ce sont les opinions formelles reconnues par les institutions, et traditionnellement, c'est là le champ de la discussion dans l'espace public et le champ dont doivent traiter les médias. Mais Habermas nous dit qu'il y a par ailleurs un complexe d'opinions informelles, personnelles et non publiques, et que, à mon sens, et c'est ça qui je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on assiste à l'irruption de ce complexe des opinions informelles, personnelles et non publiques dans l'espace public. Je vais m'expliquer. Ce qu'il appelle les opinions informelles, personnelles et non publiques, je vais vous le dire, il les classe en trois catégories. Il nous dit, au niveau le plus inférieur, s'expriment les évidences culturelles non discutées, c'est-à-dire les produits extrêmement tenaces d'un processus d'acculturation, en général soustrait à la réflexion personnelle. Entre parenthèses, vous comprendrez mieux, les positions à l'égard de la peine de mort, de la morale sexuelle, etc. C'est ce qu'il appelle les évidences culturelles non discutées, c'est-à-dire les produits extrêmement tenaces d'un processus d'acculturation en général. Niveau qu'il appelle le plus niveau inférieur. Second niveau, c'est ce qu'il appelle l'expression peu discutée des expériences fondamentales propres à toute biographie personnelle, c'est-à-dire les traces persistantes des chocs provoqués par la socialisation et qui restent elles aussi en deçà du stade réflexif. Entre parenthèses, par exemple, les opinions sur la guerre et la paix, certains désirs de sécurité. Je vous rappelle que c'est écrit en 1962 par un jeune philosophe qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Donc les expériences de la biographie personnelle, les traces persistantes des chocs provoqués par la socialisation, c'est les histoires biographiques en quelque sorte. Les opinions sur la guerre et la paix, certains désirs de sécurité tels qu'ils ont été vécus dans une expérience personnelle. Et enfin, au troisième niveau, les évidences de la culture de masse constamment discutées, c'est-à-dire les produits passagers du flux continuel des informations ou du travail de propagande auquel les consommateurs sont exposés, surtout pendant leurs loisirs. En gros, je dirais les évidences de la culture de masse. Eh bien, il me semble que ce sont ces trois sortes d'évidences qui sont maintenant entrées de plein pied complètement dans l'espace public et qui changent complètement les conditions de la discussion démocratique. Je commence par le troisième niveau sur les évidences de la culture de masse, les produits passagers du flux continuel des informations ou du travail de propagande auquel les consommateurs sont exposés, surtout pendant leurs loisirs. Eh bien, il est évident que nous baignons désormais, et tous les aspects de notre vie baignent, et pas seulement les loisirs, dans ces évidences de la culture de masse. Pensez tout simplement à la manière dont la plupart des gens, plus particulièrement les jeunes, mais pas seulement les jeunes, vivent avec un iPod. Vivent dans la culture de masse, vivent dans une musique, y compris au travail, dans la mesure où le travail ne leur demande pas forcément d'avoir l'ouïe qui soit dispose, y compris à l'école. Donc il y a une sorte de... Ces évidences de la culture de masse ne sont pas discutées, je dirais aujourd'hui, elles sont plutôt malaxées et remalaxées par tout un chacun et en même temps dans l'esprit de tout un chacun. Voyez les télé-web, voyez les films sur Dailymotion ou sur YouTube, voyez l'autoproduction des groupes musicaux les plus obscurs. Là encore, c'est un effet de la technologie. Les évidences de la culture de masse opèrent sur l'opinion, mais disons, elles baignent toute notre opinion maintenant, et d'une certaine manière, pour s'en débarrasser, c'est impossible. Y compris d'ailleurs quand vous avez un iPhone. Un iPhone, c'est la prothèse qui vous fait accompagner continuellement par la culture de masse. Deuxième niveau dont parle Habermas, je réinterprète aussi, ce qu'il appelle les expériences, les traces persistantes des chocs provoqués par la socialisation. Eh bien, elles aussi, aujourd'hui, elles accèdent au stade réflexif. Ce n'est pas seulement des aventures biographiques qu'on garde pour soi. Elles accèdent au stade réflexif. Pensez à la manière dont nous discutons continuellement de l'insécurité, de l'humanitaire, du compassionnel dans la sphère publique. Les éléments de notre biographie, les éléments affectifs de notre biographie, ces évidences de la socialisation en quelque sorte, elles ne sont plus au niveau du stade pré-réflexif. Elles sont dans la réflexivité sociale. Et puis troisième niveau, le niveau qu'Habermas considère comme le plus profond, les produits tenaces du processus d'acculturation, dont il nous dit qu'ils étaient soustraits à la réflexion personnelle, eh bien là aussi, je dirais qu'ils accèdent à la réflexivité sociale. Pensez, par exemple, aux discussions sur le sexe et sur la sexualité, pensez aux discussions sur l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, la tolérance, l'intolérance, la sociabilité élémentaire. Juste un exemple, les apéros géants, les dîners entre voisins et tout ça. Je veux dire, là encore, c'est rentré dans l'espace public. Tout ce dont Habermas nous dit que c'était soustrait à la réflexivité sociale, soustrait à l'espace public, ou que ça n'y apparaissait que de manière très indirecte et marginale à travers justement certaines médiations comme la littérature ou comme l'art, eh bien aujourd'hui c'est directement de plein pied passé dans l'espace public, et cet espace public ne comporte plus seulement, je dirais, les opinions formelles et les réflexions formelles dans le cadre des institutions et du fonctionnement démocratique. Et donc on a une sorte d'espace privé profond mais que j'appellerais aussi un espace chewing-gum, hein, dont on n'arrive pas à se dépêtrer, en quelque sorte, qui accède à la sphère publique, alors qu'il était auparavant abordé, discuté dans des formes définies comme celle de l'art, celle de la littérature, celle de la philosophie. Et je dirais que de ce côté-là, la présence très forte des philosophes aujourd'hui dans les discussions publiques, à mon avis, témoigne d'une sorte de volonté de conserver, en quelque sorte, de maintenir envers et malgré tout cet élément de réflexivité qui aujourd'hui tend à disparaître tout simplement parce que ces éléments de l'espace privé profond apparaissent directement et sans médiation. Et du coup, la politique et l'espace public se voient chargés de tout un capharnaüm de préoccupations qui traditionnellement ne faisaient pas partie de son champ. Pensez à les récentes propositions et les discussions sur la fessée, hein, la pénétration de la politique dans l'espace intérieur familial, les propositions loufoques de loi sur l'image retouchée, les discussions sur les soins palliatifs, les discussions sur la mise en scène et la manipulation de la vie privée. De ce côté-là, il y a un exemple en or sur lequel je me serais bien gardé de faire tout mon exposé, mais j'aurais pu le faire, c'est l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, vous avez tous ces éléments-là qui sont proposés, vous avez des choses strictement privées et qui sont piratées, qui passent dans le domaine public, et on s'aperçoit qu'une fois dans le domaine public, c'est effectivement un sujet de discussion publique. Tout simplement parce qu'à l'intérieur du privé, il y a déjà le public qui a fait son ingérence. Alors la conclusion de mon exposé, c'est oui, les médias y reflètent l'opinion. Simple. Deux, l'opinion, elle a changé au même sens que son espace a changé, et c'est l'espace public a changé. Et l'espace public a changé en profondeur et en temporalité, ça c'est, j'ai essayé de le montrer, et l'espace public a aussi changé en contenu et en nature, avec la montée à la surface du privé profond non discuté, de ce que Habermas appelait ce privé profond non discuté, pré-critique et pré-réflexif. Et donc, les médias reflètent l'opinion au double sens où ils en sont formatés par elle et en même temps, en retour, ils le formatent. Et du coup, eh bien, évidemment, on revient, je dirais, pratiquement aux conférences inaugurales d'hier, la démocratie, elle devient fondamentalement informe et impure. Informe et impure par rapport à ces formes formelles, si je peux m'exprimer ainsi, dans lesquelles ce qui faisait l'objet du débat public était très clairement défini. La démocratie devient informe et impure, et je dirais qu'à partir de là, l'art politique consiste, petit a, à faire avec, et de ce côté-là, les politiciens les plus malins sont ceux qui font avec cette impureté et avec ce caractère informe, ceux qui savent justement utiliser la vie privée, mettre en scène le compassionnel, mettre en scène les questions profondes de l'intimité. Deuxièmement, l'art politique consiste peut-être, alors cette fois-ci en un sens positif, je dirais, à essayer d'organiser cette informe et cette impureté. Et là-dessus, je ne pourrais que renvoyer, mais je n'avais pas du tout prévu de, quand j'ai écrit cela, je n'avais pas encore entendu sa conférence, que renvoyer à ce qu'a dit Pierre Rosanvallon hier à la fin, en disant qu'il y a en fait dans nos sociétés démocratiques énormément de nouvelles stratégies mises en place pour traiter cette situation d'informe et impure, en quelque sorte, et qu'on le fait, mais qu'on le fait avec, je dirais, avec une absence de théorisation qui est encore aujourd'hui dommageable. Mais je pense que nous avons, une fois que nous aurons bien défini, je dirais, les aspects de cette impureté et de ce caractère informe, nous aurons quand même beaucoup plus d'éléments pour mieux voir comment on peut effectivement essayer de les organiser et de, non pas de les purifier, mais de faire avec, et pas de faire avec en un sens, je dirais, purement utilitaire. Voilà, merci.
Merci Yves. Alors je vais d'abord reproposer à Luc Ferry éventuellement de réagir avant que le débat ne s'engage avec vous. J'ai l'impression que le mot-clé de l'exposé de Luc Ferry, c'était compétition. Nous sommes dans un monde de compétition. La démocratie doit fonctionnait dans un monde de compétition. La presse dans un monde de compétition est assujettie à l'audimat. Et j'ai le sentiment que le mot-clé d'Yves Michaud, ce n'est pas compétition, c'est réflexivité. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, être réactif plus qu'actif. Je crois que caractéristique du monde dans lequel on vit, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont réactifs, qui ont des réflexes, et qui ont des réflexes qui sont aiguisés, agressés, suscités, chouchoutés par des informations, mais qui n'agissent pas. La différence entre la réaction et l'action, c'est qu'avant d'agir, il faut réfléchir, et avant de réagir, il n'est pas nécessaire de réfléchir, il suffit d'être assujetti à la réflexivité. Il faudrait donc que la démocratie fonctionne dans un monde de réflexivité, ce qui est d'un pessimisme extraordinaire. Alors sommes-nous là pour prendre acte d'évolution pessimiste, ou y a-t-il derrière les langages de ces philosophes une tentation de nous déstabiliser? Luc Ferry, c'est horrible ce que je viens de dire.
Non, c'est pas grave. Absolution accordée. Non, peut-être, je me rends compte aussi en écoutant mon camarade, je me disais, au fond, ça me paraissait aller de soi, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et ça va peut-être mieux en le disant, que la conséquence principale de ce que j'appelle la logique de l'audimat, c'est-à-dire cette logique de la compétition, comparaison permanente, qui est celle de toutes les entreprises privées, y compris et surtout des médias. Comme vous l'avez compris, le thème principal de mon intervention, c'est que ce n'est pas le pouvoir politique qui fait problème, c'est mille fois plus le pouvoir économique qui fait problème. Il faut bien voir les effets que ça a. Je ne les ai pas indiqués parce qu'encore une fois, ça me paraissait aller de soi. Il y a des effets très positifs en un sens, c'est que nos médias sont de plus en plus sexy. Nos journaux sont de plus en plus agréables. Il s'agit de capter l'opinion publique. Contrairement à ce qu'on dit bêtement, sans réfléchir et généralement de manière tout à fait en décalage avec ce qu'on vit réellement, la télévision, elle est presque trop passionnante chaque soir. Si vous avez toutes les chaînes de télévision et si vous aimez la télévision, sur les je sais pas combien de dizaines de chaînes dont on peut disposer quand on est câblé, il y a toujours un truc formidable à regarder. Donc c'est pas vrai, il y a toujours au moins 10 films classiques, vous avez toujours au moins un Fellini, un Renoir sur les chaînes classiques, ou vous avez toujours un grand film que vous avez envie de revoir que vous n'avez pas vu, une émission de débat, si vous avez les chaînes de débat d'information LCI, France iTélé, etc., vous avez toujours un débat que vous avez envie d'entendre. Bon. Et donc en vérité, sur les je sais pas combien, 140 chaînes que je dois avoir à la maison, il y a toujours, si je me laisse aller, quelque chose que j'aurais envie de regarder. Donc je ne dis pas que cette télévision est si mauvaise que ça. En revanche, il y a des effets pervers terrifiants. J'en vois au moins trois. Il y a évidemment le scoopisme, c'est-à-dire le fait que l'information, la compétition conduit à ne pas vérifier. Je prenais tout à l'heure l'exemple de Baudis. Je vais être très simple, je n'ai jamais lu un seul article quand j'étais au ministère sur le budget de l'éducation nationale, y compris dans Le Monde, alors dans l'IB c'était hallucinant, où il y ait au moins une dizaine d'erreurs factuelles. Y compris d'ailleurs sur ma propre biographie, j'ai eu la quatrième de l'IB par exemple. Mais tout était faux. L'université où j'enseignais n'était pas la bonne, ma date de naissance n'était pas la bonne, le nombre de mes femmes, pardon, n'était pas non plus le bon, il se trouve que je me suis marié beaucoup, mais personne n'est parfait, le nom de mes enfants n'était pas le bon, tout était faux, vous voyez, c'était fascinant, factuellement, je ne parle pas des débats d'idées, donc ça c'est le scoopisme. La deuxième conséquence terrible que je vois, en tout cas problématique, c'est évidemment le catastrophisme. Si vous êtes dans la compétition avec les autres médias, alors dans l'écologie c'est fascinant. J'entendais tout à l'heure Madame Brunel en parler, d'ailleurs fort bien. C'est vrai que la propension au catastrophisme est aggravée, si je puis dire, par la presse, parce que vous ne faites pas une bonne une sur les trains qui arrivent à l'heure. Et le vrai problème, bien plus grave encore que le scoopisme et le catastrophisme, c'est que je ne sais pas si vous vous en rendez compte et si vous mesurez à quel point c'est puissant. On joue en permanence sur notre capacité d'indignation. Chaque semaine, nous sommes contraints d'être absolument indignés, hors de nous, et de nous prononcer de toute urgence, de manière morale, sur quelque chose qui n'a en vérité aucun intérêt. Regardez simplement cette semaine, mais c'est fascinant parce que je pourrais faire le même exercice chaque semaine. Je me souviens de l'avoir fait pour mon émission d'LCI avec Julia, c'était assez drôle. Là, juste cette semaine, nous avons eu le salaire de Madame Boutin et sa mission sur la mondialisation. Est-ce que ce n'est pas scandaleux qu'elle gagne 9 000 euros ? Je ne me prononce pas, ce n'est pas le problème. Ensuite, on a eu les hôtels des footballeurs. Et puis c'est assez drôle, arroseur arrosé, on a eu troisième truc, l'hôtel de Ramayade, qui coûtait un peu plus cher que celui des footballeurs. Mais enfin, bon, et là, nous sommes saisis à nouveau de capacité d'indignation. On a eu ensuite, immédiatement après, les cigares de Christian Blanc. Juste avant, nous avions eu la condamnation d'Hortefeux. Doit-il démissionner ? Oui, c'est scandaleux, il doit démissionner. Du genre, pas du tout, il ne doit pas démissionner, c'est un scandale qu'il ait été condamné. Chaque fois, et nous sommes mobilisés, un camp contre l'autre. On doit s'engager de toute urgence. On a eu Guillon, j'encule le président de la République. Est-ce que c'est bien ou pas de dire ça sur une chaîne publique ? Bon, chacun appréciera, mais évidemment, ça suscite là aussi l'indignation et c'est fait pour. Il y a eu la maison de Joyandet à Saint-Tropez. Juste avant, on avait eu ces voyages en avion privé. Juste dans la semaine, vous vous rendez compte. Et chaque matin, vous avez un Jean-Jacques Bourdin, qui est par ailleurs un homme tout à fait estimable, sur RMC, qui vous sollicite, et que si vous n'êtes pas vous-même atteignable, si je puis dire, eh bien, on invite les auditeurs à s'exprimer. Et là, en effet, on peut dire que le média reflète l'opinion publique, en tout cas, peut-être pas parfaitement, mais toutes les opinions sont à coup sûr représentées, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et donc, il y a là quelque chose qui fait problème. Et ce que je voulais vous faire comprendre tout à l'heure, c'était le sens de mon exposé, c'est qu'il y a des effets positifs à cette logique de l'audimat, puisqu'en effet, il faut plaire, donc ça rend la presse plus sexy. Il y a des effets négatifs, je viens de les évoquer, qu'est le scoopisme, le catastrophisme, la propension à capter nos sentiments, c'est à faire en sorte que nous soyons indignés, ce que je trouve détestable, personnellement. Parce qu'on nous manipule, là, manifestement. Mais en même temps, ça marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, nous-mêmes, de ça, dans un dîner le soir en famille. On va même s'engueuler sur le thème de la journée, sur l'indignation mise en exergue dans la journée. Eh bien, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la réponse morale n'est pas la bonne. Constamment, ce qu'on entend partout, c'est qu'il suffirait d'être moral pour arranger tout ça, hein, pour ne pas être dans la logique de la compétition. C'est pas vrai. L'économie est mille fois plus puissante que la morale. Et la vérité, c'est que la morale n'est juste un artifice, c'est juste un petit plus dans un système qui l'intègre immédiatement. Le journaliste moral, c'est juste celui qui a compris que ça faisait mieux d'avoir un look moral plutôt que d'avoir un look vulgaire. Voilà. Mais c'est évidemment intégré dans le système. Et de la même manière, c'est le symétrique. Le type qui, comme Guillon, passe son temps à aller toujours plus loin. Il est comme un joueur olympique, plus haut, plus loin, plus fort. Il faut toujours trouver, il va dans les derniers recoins pour trouver encore un machin à transgresser. La vérité, c'est que nous sommes dans une société où pratiquement plus aucune transgression n'est possible. Si Guillon allait dire en Libye « j'encule le président Kadhafi », à mon avis, il prendrait un grand risque. Voyez, et là, il comprendrait la différence entre une société d'hyper-tolérance comme la nôtre et une société légèrement plus dure. Prenons un autre exemple. À une émission chez Ardisson, j'y ai assisté en direct, il enfile un préservatif sur une statuette de Benoît XVI. Très bien. Mais s'il veut tester vraiment son audace, mais qu'il le fasse sur la tête de Mohamed, à mon avis, il y aura une fatwa dans le quart d'heure et ça va le calmer pour les 30 ans qui viennent. Je ne lui souhaite pas, je n'ai rien contre lui. C'est juste pour vous montrer que ces deux symétriques que sont d'un côté le look moral, on se donne l'air d'un journaliste moral, de l'autre côté le look transgressif des humoristes d'aujourd'hui, ça ne répond pas à cette logique de l'audimat parce que ces deux figures-là, ces deux attitudes-là sont complètement intégrées dans ce système du moment que ça marche et que ça fait de l'audimat. Le jour où Guillon lassera, il sera viré. C'est pas le jour où il transgressera plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut dire de plus que ce qu'il a dit? C'est le jour où il ennuiera à force de transgresser à vide qu'il se fera virer. Mais c'est pas le jour où il aura trop transgressé. Au contraire, là, on peut pas le jeter, on le garde et ça marche. Et de la même manière, vous pouvez rajouter à toute la morale que vous voudrez dans la télévision, le patron de la chaîne, il n'attend qu'une chose, c'est le résultat dans le quart d'heure. C'est même pas dans le quart d'heure, c'est à la minute même. Quand vous regardez Médiamétrie, c'est à la seconde même. même, eh bien, le résultat en termes de part de marché, en termes d'audimat, et la morale est complètement recyclée dans ce système-là. Donc, si on veut réfléchir vraiment utilement à la question de savoir si ce tyran économique, si je puis dire, qui pèse sur la presse, d'abord est entièrement négatif ou pas, et si on doit faire quelque chose contre, c'est pas dans la transgression ni dans la pseudo-morale, dans la moraline, comme dirait Nietzsche, qu'on trouvera la solution. Il faut voir qu'on a affaire à un système extraordinairement puissant et beaucoup plus puissant que toute, je dirais presque toute attitude individuelle. Voyez, en tout cas, c'est ce problème-là que je voulais poser. Je ne sais pas si je le pose bien. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais je voulais au moins que ce soit compréhensible et que, à mon avis, on pose cette question qui, à ma connaissance, n'est pratiquement jamais posé. On dénonce la vitesse, on dénonce le scoopisme, vous êtes une quantité de livres de Virilio, de Régis Debray, très estimable d'ailleurs, c'est pas une critique, bon, qui dénonce des aspects particuliers, des effets pervers de ce système. Mais le fait que, en vérité, cette logique de l'audimat soit enracinée au cœur du cœur de la mondialisation, c'est-à-dire au cœur du système économique du monde d'aujourd'hui, je crois que c'est cela qu'il faut comprendre et c'est cela qu'il faut prendre en cause, en question et en compte pour essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire pour avoir une presse, disons tout simplement, de meilleure qualité. Parce que, bon, je m'arrête là, supprimer la pub à la télévision, très bien, enfin on a déjà Arte. Hein. Et puis, c'est pas non plus parce qu'on aura complètement rompu le lien avec le public que ça ira mieux. Parce que moi, j'ai pas envie de me taper non plus des opéras de Boulez sous-titrés en bulgare. Donc, il faut aussi faire attention à ça, si vous voulez. C'est pour ça que je disais, le premier point, c'est important aussi que, en effet, de noter que l'effet positif de cette audimat, c'est aussi que le lien avec le public, malgré tout, est maintenu. Hein, voilà. Et donc, pardon pour ceux qui aiment Boulez et chacun, mais je n'en fais pas partie et j'ai le droit aussi. Merci à vous.
Bien, mais je ne peux pas croire que vous n'êtes pas nombreux à vous être sentis concernés, mobilisés, agressés, je ne sais pas.
Oh, mais...
Donc, non, pas spécialement par vos propos. On va laisser tomber le Kaboulez. Hein. C'est le reste qui m'intéresse. Et donc, je... vous demande Mathilde et Céline de donner la parole. Oui, monsieur.
Oui, au siècle dernier, on a assisté au déclin des autorités morales traditionnelles qui ne sont plus parvenues à dire aux gens de quelle façon ils devaient mener leur vie. Est-ce que vous êtes en train de déplorer, est-ce que ce n'est pas parallèlement le déclin des autorités intellectuelles traditionnelles qui n'arrivent plus à dire aux gens la façon dont ils doivent penser leur vie?
À qui posez-vous la question?
À l'ensemble des participants. Est-ce que
alors
finalement...
on va vous faire une réponse à trois voix. Non. Oui.
Par exemple, à Yves Michaud.
Ah.
Yves Michaud.
Alors Yves, vous avez une tête plus morale que celle de M. Ferry, donc c'est à vous de répondre à la question.
Justement, moi, ce que je diagnostique, c'est... D'abord, je n'ai pas de recommandation morale là-dessus, j'essaye simplement de faire une description. Donc, effectivement, je constate qu'aujourd'hui, dans cette sphère de ce que j'appelle la réflexivité sociale, je veux dire, il n'y a pas de privilège fondamentalement établi qui serait donné ni à la compétence, ni à l'intellectuel, ni aux gens en fonction de leur position. C'est à réfléchir, par exemple, si vous prenez la notion d'expert aujourd'hui, on fait continuellement appel aux experts, mais ce qui caractérise les experts, c'est qu'il y a toujours des experts différents et qu'il n'y a jamais d'expert absolu. C'est presque la définition même de l'expertise. Donc, d'une certaine manière, la revendication, c'est pour ça que j'avais cité le texte de Bourdieu, la revendication d'une autorité supérieure qui tiendrait à une compétence supérieure, c'est une revendication qui est aujourd'hui en grande partie, platonique, et pas forcément pour des raisons irrationnelles. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur lesquelles l'expertise compétente et absolue n'existe pas. Donc moi, je décris plutôt un système dans lequel, je dirais, beaucoup d'opinions se forment, qui ne sont pas forcément des opinions absurdes. Certaines sont complètement absurdes. Et en même temps, ce système doit se régule aussi lui-même. Parce qu'il faut voir que dans cette sorte de torrent d'avis, de réflexion qui circule, il n'y a pas que des choses stupides du tout. veux dire, et que le système n'est pas entièrement pourri ni par le ni par l'immoralité ni par le capitalisme ni par le profit. Moi, j'insiste beaucoup plus sur l'importance, si vous voulez, des nouveaux moyens technologiques qui sont à notre disposition. Ces moyens technologiques nous donnent des possibilités d'expression, de capture, d'enregistrement que nous n'avons jamais eues, et ça crée une situation fondamentalement différente pour l'expression des opinions. C'est tout, je veux dire. Donc, à partir de là, je déplore rien, si vous voulez. Je constate simplement l'apparition, et elle n'est pas d'hier, hein, mais l'apparition et le renforcement d'une situation qui est foncièrement nouvelle, et qui fait qu'on a un concept des médias et un concept de l'opinion qui sont fondamentalement nouvelles. Par rapport à ça, c'est vrai que ce que vous dites sur le passé est caduque, c'est vrai. Le temps des autorités est très largement un temps fini.
Merci Yves.
Merci. Moi, je voulais, en tant que spectateur qui regrette aussi, téléspectateur qui regrette le départ et le non-remplacement, surtout de Bernard Pivot, parce que tout le monde a le droit de prendre sa retraite, mais ce qui est dommage, c'est que personne n'a pu vraiment lui succéder à son niveau. Par contre, je suis plus sceptique, et c'est une question que je pose, sur le niveau des émissions qui sont proposées au grand public. Moi, j'ai beau zapper, j'ai le câble, j'ai du mal à trouver, à part évidemment les films de cinéma, mais qui ne sont pas des émissions de télévision, ce sont des rediffusions de créations qu'on peut choisir. Là, on a effectivement un grand choix. Mais pour ce qui est des émissions de télévision proprement dites, moi, je suis effaré par le nivellement par le bas de la plupart des émissions. Bon, sans aller évoquer la télé-réalité, qui évidemment est le degré zéro du niveau culturel, puisqu'on filme les gens dans des pseudo-situations qui ne sont même pas de la vie quotidienne, puisque tout ça est simulé pour faire de l'audience. Et là où je suis plus inquiet, c'est sur toutes ces émissions, bon, je pense à La Nouvelle Star qui vient de se terminer, parce que ma fille l'a regardée, moi j'ai découvert que ça existait, mais il n'y a pas que cette émission-là, il y en a plein d'autres, et des émissions de télé-réalité également, où finalement, le principe sous-jacent, c'est « il ne doit en rester qu'un ». Et dans une salle comme celle du Jeu de Paume, où on a... à une certaine époque, enfin 2 ans plus tard, en 91, on va déclarer les droits de l'homme et du citoyen, où tout le monde est libre et tout le monde est égal et tout le monde a le droit de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour notre jeunesse, enfin pour mes enfants, puisque j'ai 3 enfants adolescents, est-ce qu'il n'y a pas un message sous-jacent qui me paraît extrêmement dangereux, et est-ce que les philosophes n'ont pas un devoir de dénonciation et de pousser un cri d'alarme, si ça peut encore exister, pour dénoncer cette philosophie, si c'en est une, en tout cas cette idéologie du « il ne doit en rester qu'un ». Et toutes les semaines, il y a des gens qui votent et il y a des gens qui sont éjectés du système. Alors il y avait une émission qui s'appelait « Le maillon faible », et puis là, il y a La Nouvelle Star, il y a les télé-réalités, où en gros, c'est marche ou crève, et celui qui subsiste à la fin, ben, tant mieux pour lui, mais les autres... Et je dirais, puisque M. Ferry connaît bien aussi l'éducation nationale, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une transcription du système élitiste de formation à la française, où en gros, celui qui est major à Polytechnique a réussi, et puis tous les autres ont échoué, finalement, quelque part, ou major à l'ENA, enfin, etc.
Pas gentil pour le second, ça, M. Ferry.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. D'abord, nous sommes entièrement d'accord sur la distinction entre ce qui passe dans la télévision et les émissions faites dans la télévision. Et bien entendu, je parlais de l'ensemble et pas de ce qui est fait. Sur ce qui est fait, je suis hélas entièrement d'accord avec vous. Et ça va tout à fait dans le sens que je vous ai dit. C'est-à-dire que la logique de l'audimat, elle peut avoir des effets bénéfiques, mais la plupart du temps, elle conduit quand même à la vulgarité et à la bêtise maximale. C'est un fait encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça pose évidemment problème, parce que la question, non seulement, d'ailleurs vous la posez très bien, c'est celle de la vulgarité ou de la bêtise de certaines émissions. Fort heureusement, elle ne marche pas si bien que ça, d'ailleurs. Hein, je pense à quand ça s'appelle, parce que j'arrive même pas à les retenir. Les machins là, de TF1, Koh-Lanta, ça ne marche pas très bien, d'ailleurs. Ils ont des vrais soucis, hein, ce qui est plutôt bon signe. Je dis ça, je suis sur TF1, sur LCI, donc je prends un léger risque, comme on dit, mais je crois qu'il n'y en a pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vous aviez raison, ça va avec la logique hyper-libérale de l'élimination. Et donc les deux sont assez cohérents, c'est à la fois cette vulgarité et cette bêtise maximale, mais aussi le fait qu'on vire les gens un à un, c'est assez cohérent, c'est tout à fait la logique de l'audimat, c'est tout à fait la logique de la compétition et de la concurrence. Le problème, encore une fois, mais je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est de savoir comment on réagit à ça, comment on constitue nous
c'est-à-dire les citoyens, un contre-pouvoir. Le problème, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on réfléchit, par exemple, en termes d'instruction civique à l'école, on a beaucoup disserté, beaucoup réfléchi à la question de ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ce que fait Schneiderman, ce que font les Virilio, les Debré, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire dans l'école, avoir une espèce de critique de la presse, de critique de l'image, de critique de l'Internet, de critique de tout ce qui est média, finalement, et donc donner à nos enfants l'esprit critique. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Je vous dis pourquoi. Parce que je pense qu'on confond deux choses. C'est-à-dire que spontanément, on pense que parce qu'on va donner à nos enfants l'esprit critique, ils vont être plus libres. C'est normal, on a comme ça cet héritage des Lumières. Bon, malheureusement, je n'y crois plus. J'y ai cru, mais je n'y crois plus. Parce que je pense que l'esprit critique est pris en ce sens-là plus le problème que la solution. Je vais le dire là encore un peu brutalement, mais le premier imbécile de journaliste venu s'imagine qu'il est profond et intelligent parce qu'il est ironique et méchant. C'est une grave erreur. Si on veut vraiment équiper nos enfants pour résister à cet univers addictif de l'image, eh bien, je pense que si on veut les équiper, ce n'est pas l'ironie critique qu'il faut leur donner. Ça, de toute façon, rassurez-vous, ils l'auront. D'abord, vis-à-vis de vous, vous serez la première cible. C'est pas ça qu'il faut leur donner. Il faut leur donner la vraie distance par rapport au monde rapide de la vitesse dans lequel nous vivons. Et la vraie distance, je connais qu'une seule chose qui la donne, c'est le séjour dans les grandes œuvres. Quand vous avez réussi, si vous y réussissez à faire comprendre à vos enfants qu'il y a d'autres ordres du réel que ceux de l'image, de la rapidité, de la consommation, de la vitesse, du scoopisme, etc., vous aurez gagné. Si par exemple, juste pour prendre un exemple pour qu'on se comprenne, et je m'arrête là, si vous réussissez à faire que vos enfants éprouvent le même sentiment que nous avons tous comme adultes, grands lecteurs, je vous imagine comme tel, quand on a achevé un livre qu'on adore, on voudrait tout de suite avoir la suite, on voudrait le tome 2. Bon, eh bien, juste ce petit sentiment-là, c'est 1000 fois plus important que tout l'esprit critique du monde. Parce que si vos enfants sont capables d'éprouver ce sentiment-là face à une vraie grande œuvre, vouloir la suite, eh bien, ça veut dire qu'ils auront compris qu'il y a d'autres dimensions du réel que celles dans lesquelles nous enferme ce monde de l'image, de la rapidité, de la vitesse, etc. Vous voyez, je vous dis ça très rapidement et très mal, mais je pense qu'il faut beaucoup plus aller chercher donc du côté de l'éducation, mais pas dans les sentiers battus, pas cette instruction civique qu'on nous voilà, le vivre ensemble, toutes ces âneries qu'on nous déverse dans les programmes d'instruction civique. Bon, mais aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus les grandes œuvres, beaucoup plus la vraie culture, la passion pour les choses de l'esprit, qui fera en sorte que nos enfants puissent sortir de cette univers-là, de ne pas être complètement plongé dedans, pas être addictif, et je crois que c'est beaucoup plus ça que l'esprit critique qui, encore une fois, domine tellement ce monde que c'est comme la morale, de toute façon on est piégé dedans. Quand vous ouvrez la radio, la tonalité que vous entendez en permanence, c'est l'ironie, c'est la dérision, c'est la critique, il n'y a pas besoin d'en rajouter, ça y est déjà, c'est autre chose qu'il faut aller chercher.
Merci bien, alors au premier rang et ensuite la travée qui est à ma gauche.
Je voulais rassurer d'urgence Luc Ferry. Pierre Boulez n'a pas écrit d'opéra.
Ah, je sais. Donc, hélas.
Et je regrette. Et personnellement, je le regrette beaucoup.
Ah bon, c'est la bonne nouvelle pour moi. Mais...
Voilà. Je dois dire que dans le diagnostic que vous avez fait, l'un et l'autre, de la relation entre les médias et l'opinion, il y a beaucoup de choses justes. Il est juste, par exemple, Monsieur Ferry, de dire que c'est l'économie qui aujourd'hui gouverne le monde des médias. Mais ça ne suffit pas à renoncer à avoir un point de vue politique et démocratique sur les médias. C'est vrai, la première menace aujourd'hui n'est pas celle du pouvoir politique, sauf qu'il garde cette illusion, et vous l'avez dit, il espère toujours pouvoir en jouer, et je pense que si Nicolas Sarkozy s'est approprié la nomination des PDG de l'audiovisuel public, c'est bien qu'il pense que cela peut lui servir à quelque chose. Et par rapport à cette intrusion du politique, un des problèmes démocratiques graves aujourd'hui, c'est que cela donne le soupçon au peuple, le soupçon aux citoyens à l'égard des médias. Donc, on ne peut pas, à mon avis, sortir du champ de la réflexion politique l'état actuel des médias. De même, quand Yves Michaud vous décrivait cette surabondance, ce flot, cette espèce d'envahissement des médias dans toutes les formes, surtout avec les nouvelles technologies, vous décrivez quelque chose qui est très juste et qui est une donnée nouvelle, mais qui, elle non plus, ne nous dispense pas d'avoir un point de vue politique sur la manière dont on doit encadrer le développement de ces médias, dont on doit essayer de limiter un phénomène que vous n'avez pas évoqué, qui est celui de l'hyperconcentration. Car non seulement l'économie gouverne les médias, mais c'est une poignée de détenteurs du capital des médias qui continuent d'amasser le magot. Par exemple, la presse régionale, qui est une presse importante pour une grande partie de nos concitoyens qui ne vivent pas à Paris et qui lisent cette presse régionale. Aujourd'hui, elle est dans les mains de 2 à 3 groupes au maximum dans l'ensemble de l'Hexagone. Il faut quand même savoir ça. Ce que je voulais dire, et là où je vous interpelle, c'est vous avez tous les deux dénoncé la perte de sens dans notre société. À partir de là, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il faut que l'on ait dans les projets politiques des uns et des autres un point de vue et un projet d'action par rapport à cette évolution des médias? Sinon, on regarde passer, on renonce finalement à en faire un des éléments de la vie démocratique. Je termine par là. Dans l'histoire, d'ailleurs, de toutes les révolutions, le rôle joué par la presse, alors c'est la presse ancienne, la presse écrite, un peu plus tard les radios, les télés, aujourd'hui Internet, dans tous les grands moments de crise de la société, les presses ont un rôle absolument essentiel. Donc à partir de là, je ne voudrais pas que votre constat nous incite à la résignation, voire au cynisme.
Merci bien.
Je voudrais bien.
Ah non, mais il y a d'autres réponses que les applaudissements, bien sûr.
Oui. Je vous remercie de votre intervention parce que je ne suis pas rentré dans des choses très précises et concrètes, sauf sur quelques exemples, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, avec juste une ou deux nuances. La première, c'est que il est évident que cette opinion qui se déverse à profusion, d'une certaine manière, c'est elle qui formate les médias. Sauf que les médias la reformatent, je dirais, à la marge. Et il est évident que de tous les discours, toutes les énoncés qu'on a entendus sur le fait que les médias gouvernent l'opinion ou que les politiciens croient qu'ils pourraient contrôler les médias, tout ça est vrai. Pourquoi est-ce que je pense que le président Sarkozy verrouille les médias dans une entreprise qui est assez systématique et depuis longtemps maintenant? C'est parce que c'est sur 400 000 voix que se fait une élection présidentielle. C'est à la marge. Les médias ne changent pas les opinions lourdes des gens, sûrement pas. Mais sur une frange de personnes et à la marge, ils les changent. Et effectivement, je dirais qu'à ce moment-là, le jeu vaut la chandelle. Donc, premier point, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir, par exemple, j'ai parlé de l'histoire du monde, je suis assez surpris de voir que tout cela se déroule dans l'indifférence générale. Alors ça signifie peut-être que justement la presse papier ou même le journal de référence est quelque chose qui a disparu. Peut-être que le Monde a perdu sa position de journal de référence. C'est possible. Mais je veux dire, on est en face là d'une manœuvre extrêmement importante, probablement qui vient de beaucoup plus loin même que ce qui s'est passé. Je réfléchissais là. Puisque c'était avant Jean-Jacques Ayagon, je réfléchissais que c'est quand même étonnant que Mme Albanel ait été nommée directrice de la communication de France Télécom, et que c'était un peu avant que ces grandes manœuvres commencent. Est-ce que ces grandes manœuvres n'étaient pas déjà commencées? Question que je pose. Donc je pense que réellement, là, il y a des enjeux politiques et qu'il ne faut pas du tout être naïf là-dessus. La seconde chose, Sur l'économie des médias, l'économie commande, mais je tiens à, sur les nouveaux médias, je ne sais pas si Robert Castel sera d'accord avec moi là-dessus, il est plus compétent, mais moi je pense que en matière d'économie, ce qui commande, c'est l'économie des tuyaux aujourd'hui, et pas l'économie des contenus. Ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui s'approprient, donc les gens sont assez, ceux qui, les grands, quand vous avez parlé d'hyperconcentration, c'est vrai, mais c'est une hyperconcentration sur les tuyaux. C'est pas une hyperconcentration sur les contenus. Et d'une certaine manière, ce qui circule dans les contenus, ceux qui ont les tuyaux, ils s'en foutent. Hein. Vous payez 30 euros d'abonnement à Internet, quoi que ce soit, qui circule. Hein. Et du coup, d'ailleurs, la question de la gratuité, du piratage sur Internet, moi, à mon avis, se pose dans des conditions complètement différentes de celles où on les a posées. Parce que ce qui serait important, c'est de savoir qui contrôle les tuyaux et qui s'arroge, qui s'approprie en quelque sorte l'argent de l'Internet. Moi, à mon avis, c'est les vendeurs de tuyaux, c'est les vendeurs et pas du tout les vendeurs de contenu. Donc, c'est pas une économie des médias ou alors c'est une économie, effectivement, des médias en tant que vraiment des médias de communication, communicationnelle, pas une histoire de contenu. Je suis entièrement d'accord avec eux. Sur la perte de sens, alors en revanche, moi, je n'ai pas prononcé ce terme tout simplement parce que, compte tenu de mes convictions philosophiques, je pense pas que le monde ait grand sens. Je suis sceptique de position, ce qui ne m'empêche pas d'être actif, mais le sens du monde, j'ai jamais vu ça. Des sens locaux et partiels dans nos pratiques, il y en a tout le temps, ça c'est vrai, et c'est ceux-là qui pour moi ont de l'importance. Mais le sens du monde et les sens transcendants de l'existence, ça j'avoue que j'ai depuis bien belle lurette, je n'y crois plus, donc d'une certaine manière je ne vais pas militer pour la reconstitution du sens. En revanche, je dirais pour le contrôle sur nos propres vies et le contrôle sur nos propres conditions d'existence et je dirais même de dignité, ça il n'y a aucun problème. C'est en ce sens que je pense que ce nouveau contexte, si vous voulez, aussi bien des médias que de l'opinion, il est ni négatif ni positif, parce que franchement, quand vous êtes vraiment dans l'internet sérieusement, comme certains jeunes le sont aujourd'hui, il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se font, il y a plein d'inventions qui se passent, il y a plein de circuits d'information dont on n'a pas idée, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur TF1 ou ce qu'il y a sur les journaux télévisés ou ce qu'il y a dans Paris Match. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans ce cybermonde. Encore faut-il y être en quelque sorte. Donc il ne faut pas du tout critiquer non plus en disant c'est fondamentalement mauvais, c'est tenu par des capitaux, etc. Non, les tuyaux sont tenus, ça c'est fondamental. Mais les contenus, justement, nous pouvons faire beaucoup de choses sur les contenus. Alors par ailleurs, bon, je terminerai là-dessus, c'est pour ce qui est de la qualité des contenus médias, ben, je dirais que ici, et en même temps, je dirais, nous sommes témoins de tout ça complètement, nous sommes symptômes en même temps et témoins, ici, nous montrons un type de fonctionnement qui est complètement différent. Nous montrons aussi que ce type de fonctionnement concerne des gens relativement âgés, peu nombreux, qui sont capables de rester assis plusieurs heures, dont les changements d'attention ne sont pas sautillants, parce qu'il faut voir aussi que les nouvelles technologies ont modifié les conditions de l'attention, ont modifié les conditions de la perception, qu'avec les gamins, tout ce qui dure plus de 20 minutes, ça devient une conférence fleuve, ça devient la Bhagavad Gita. Hein. Nous essayons de donner un sens partiel à quelque chose. C'est-à-dire, simplement, reconnaissons que nous ne sommes pas majoritaires. Hein, je veux dire.
Ah, Luc Ferry souhaiterait ajouter un mot et ensuite, madame, vous aurez la parole.
Très, très bref, peut-être je ne sais même pas d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on en discute comme on ne l'a pas fait, une petite divergence avec mon camarade Yves Michaud. Moi, je tiens beaucoup à la question du sens. Je pense que c'est la question la plus importante qui soit aujourd'hui. C'est pas le sens du monde, d'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire le sens du monde, mais je crois que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que la structure de la mondialisation est une structure de fabrication de non-sens, c'est-à-dire qu'on avance absolument sans savoir ni où on va, ni pourquoi on y va, et que politiquement, comme intellectuellement, c'est insupportable. Je pense que la disparition des grands desseins, comme on disait naguère encore, est un des problèmes politiques les plus cruciaux qui soient aujourd'hui. Et donc, simplement pour dire mon attachement malgré tout à cette question, que je ne crois pas simplement naïvement métaphysique. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur ce que vous disiez, Madame Tasca, et pardon, sur les histoires de boulettes, je rigole, pardon, c'est bête de ma part, mais mêlons pas les questions de goût, elles n'ont aucune importance au fond. Non, sur le problème que vous posez, voyez bien, vous enfoncez un coin à juste titre, mais dans une faille qui n'existe pas dans ce que je vous ai dit, et je pense que vous le comprendrez très, très, très simplement. C'est pas parce que je dis que le contrôle de la presse par les politiques ne marche pas, même s'ils le veulent, vous l'avez bien noté, que je ne fais pas de la liberté de la presse un problème politique absolument fondamental. Simplement, je ne crois pas, même si je suis entièrement d'accord avec vous, que suffise à répondre à la question de la liberté de la presse sur le plan économique, la lutte contre la concentration. Parce qu'au fond, cette lutte contre la concentration, elle est dans une logique parfaitement libérale. Un libéral, un vrai, est hostile au monopole, hostile à la concentration. Aux États-Unis, on condamne Microsoft, on condamne les serveurs de téléphone quand ils s'arrangent entre eux pour baisser les prix, etc. Et donc, au fond, il ne suffit pas de casser les monopoles, il ne suffit pas de briser la concentration pour régler le problème que j'évoquais tout à l'heure. Au contraire, on va plutôt, à la limite, presque le renforcer de cette logique folle du benchmarking, de la compétition, de la concurrence ultralibérale qui conduit à ces dérives que j'ai évoquées, le scoopisme, le catastrophisme, l'indignationnisme, si je puis dire. Je n'y reviens pas. Et donc, c'est toujours, à mon avis, en tirant les deux bouts d'une chaîne, qu'on peut essayer de réfléchir aux solutions. D'un côté, ce que j'évoquais sur la question de l'éducation, à ce que j'appellerais le véritable esprit critique, qui n'est pas l'ironie habituelle, qui est beaucoup plus profond que cela. Et puis de l'autre côté, c'est l'immense problème dans tous les domaines de la régulation qui est posée. Que ce soit, et je vois que nous sommes d'accord, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan économique, financier ou sur le plan de la presse. Et sur le plan de la presse, c'est particulièrement difficile parce que c'est un pouvoir, on a dit le quatrième pouvoir, mais qui n'aime pas les contre-pouvoirs. Vous le savez, il n'a pas envie d'avoir de... Il est toujours favorable à l'autorégulation. Le problème que j'ai, c'est que l'autorégulation, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde de la presse, je n'y crois pas énormément. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que je trouve le problème terriblement compliqué. Mais loin de moi, ni d'en faire un non-problème politique, au contraire, c'est un des problèmes vraiment les plus cruciaux, ni non plus d'être dans une logique de renoncement. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, merci de votre intervention qui permettait de, par vous-même, d'ailleurs, de le préciser par vous-même. Merci.
Bien, madame, la dernière question vous appartient.
Avant de poser ma question, je voudrais faire une remarque. Ce n'est pas Stéphane Guillon qui a dit qu'il voulait faire subir de mauvais traitements au président de la République. C'est Didier Porte.
Non, les deux. J'ai écrit un papier là-dessus ce matin, pardon. Donc j'ai vérifié. Alors ce qui est vrai, c'est que ce n'était pas lui qui le disait, c'était dans la bouche de grave. Dominique de Villepin. Mais je c'était les deux.
C'est pas grave.
Ben si, c'est
voilà.
Important.
Et
Didier Porte, pardon, n'a pas dit « j'encule le président de la République », il a dit « je le sodomise », car il avait adouci le propos. Mais enfin, je vous laisse juger.
Alors, venons-en à la question.
Je pense qu'il s'arrêtera le jour où il sera plus drôle. Voilà, je voulais parler de cette partie de la population qui est écartée des médias, qui ne possèdent pas 140 chaînes de télévision, qui n'ont pas d'iPhone, qui ne lisent pas Le Monde, qui ne lisent pas Libération. Est-ce que là, on n'est pas en train de recréer, entre guillemets, un nouveau tiers-État ? Et si vous parlez de deuxième temps, Monsieur Ferry, de deux temps, quel troisième temps verriez-vous en prolongement de ce que vous nous avez présenté ?
Madame, est-ce que vous pourriez rappeler les deux temps? Parce que moi-même, j'ai pris beaucoup de notes. Je n'ai rien noté sur la valse à trois temps.
Le premier temps, c'est
non, excusez-moi, oui.
La révolution scientifique.
Ah oui, et voilà. Le deuxième temps,
voilà. Oui. La mondialisation.
La compétition.
Voilà. Oui.
Eh bien, le troisième temps, mais je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites, madame, malgré l'apparence. Le troisième temps, c'est ce que j'appellerais l'ère de la régulation, mais qui est extrêmement difficile à penser. Parce que, comme j'ai essayé de vous le dire tout au long de ces interventions, je pense que cette régulation ne peut pas être simplement morale. De même que je ne crois pas qu'on puisse moraliser, entre guillemets, le capitalisme, je crois qu'il faut intervenir beaucoup plus durement que de manière morale. Il faut intervenir par la loi, il faut intervenir par d'autres moyens. Et donc, je pense que le troisième même âge dans lequel nous rentrons, c'est l'âge de la régulation. Mais si nous avions un petit peu plus de temps, il faudrait aussi revenir à la question du sens, c'est-à-dire au nom de quoi veut-on réguler ? Après tout, pourquoi ne nous contentons-nous pas d'un système ultralibéral dans lequel cette espèce de pluralisme ambiant pourrait, aux yeux d'un libéral fou, apparaître comme, après tout, un sommet et une perfection ? Donc, je dirais que c'est l'ère de la régulation, mais il faut dire au nom de quoi on a besoin, envie, le désir de réguler. C'est pas un désir répressif, c'est au contraire un désir de désaliénation, de liberté à mes yeux, mais ça supposerait qu'on ait un petit peu plus de temps. En tout cas, sur ce que vous disiez, je ne suis pas du tout en désaccord.
Alors, juste un mot sur votre remarque, sur votre crainte concernant l'apparition d'un nouveau tiers-État qui serait exclu des médias, ben je dirais les bienheureux, d'une certaine manière. Les bienheureux, parce que justement, ces trois niveaux pré-réflexifs dont je vous ai dit tout à l'heure à partir de Habermas, qu'aujourd'hui ils entraient dans l'espace public, pour eux, ces trois niveaux restent très largement, à ce moment-là, soustraits à la distribution publique. Et ils redeviennent, je dirais, des enjeux importants, justement, dans la décision démocratique. Vous savez, pour travailler beaucoup dans la France profonde, quand on fait des conférences dans les lycées, je sais par exemple ce que publie la presse régionale, et je sais aussi ce que les gens en lisent. D'une certaine manière, que parfois on se dit bienheureux les ignorants. Je veux dire, ils restent soustraits à ça, et c'est pas évident que tout le monde soit exposé continuellement aux médias, justement. Donc, je dirais qu'on revient, on a des chances de revenir à ce moment-là aux fondamentaux. C'est-à-dire, la question fondamentale devient comment est-ce qu'ils vont voter et en fonction de quels intérêts.
Voilà. Bah, il voulait tout simplement vous dire qu'il était extrêmement malheureux. Merci beaucoup. La séance est levée.